chaque matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est fait, Elisabeth Borne a passé son baptême du feu et a enfin prononcé son discours de politique générale hier à l'Assemblée. 1h30 devant une majorité relative et sans vote de confiance, ce savant attendu au tournant. La Première ministre a plutôt bien réussi l'exercice, mission accomplie, Arthur Delaborde.
Oui, devant un hémicycle parfois agité, Elisabeth Borne ne s'est pas laissée déstabiliser, appelant d'abord à bâtir des compromis avec les oppositions pour, dit-elle, que majorité relative ne signifie pas action relative. Cette nouvelle méthode sera expérimentée pour répondre au premier défi posé par la chef du gouvernement, l'urgence du pouvoir d'achat. Elisabeth Borne s'est ensuite attaquée à un sujet beaucoup plus clivant, la réforme ultra sensible des retraites.
Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps.
Autre sujet brûlant, l'urgence climatique. Et là, Elisabeth Borne n'a pas hésité à reprendre à son compte le concept de radicalité.
Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer.
Beaucoup de promesses donc déjà formulées par Emmanuel Macron sur les différents dossiers, à l'image de ce slogan martelé par l'ancienne préfète, pas de hausse d'impôts.
Nous devons cesser de croire qu'à chaque défi, la solution est une taxe, pas de hausse d'impôts.
Elisabeth Borne qui a donc pris soin d'envoyer des clins d'œil à gauche comme à droite, car faut-il le rappeler, elle aura besoin des oppositions pour mettre en œuvre sa politique, ce qui à ce stade est loin d'être gagné.
Besoin des oppositions, hein, c'est aussi ce qu'Elisabeth Borne a laissé sous-entendre aux 20h de TF1, car si des compromis semblent envisageables avec les Républicains et l'aile modérée de la NUPES, cela semble beaucoup moins évident avec le RN et les Insoumis.
La tonalité cet après-midi a montré que certains groupes pouvaient être dans la discussion et que d'autres étaient plutôt dans les attaques personnelles, dans l'invective. Donc on voit bien qu'en effet, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, manifestement, ils ne sont pas en train de chercher des compromis avec nous. Et vous voyez ce qui me semble important aussi, moi je le redis, hein, moi je suis au travail et mon objectif, c'est d'agir pour les Français. Ces débats, ils auront lieu à l'Assemblée nationale et je pense que chacun verra qui est prêt à trouver des compromis, à faire avancer les projets de loi et qui n'est pas prêt.
Elisabeth Borne qui confirme également la présentation aujourd'hui en Conseil des ministres du projet de loi pouvoir d'achat.
Des mesures concrètes, rapides et efficaces selon la Première ministre qu'elle estime à 20 milliards d'euros.
Parmi elles, la fameuse indemnité carburant. Geoffrey Bronger, on commence à en savoir plus sur ce dispositif qui s'annonce relativement complexe.
Oui, alors ce que l'on sait, c'est qu'elle sera versée à tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, hein, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, mais sous condition de ressources. Alors, jusqu'à quel montant de salaire, la question sera soumise au débat parlementaire, mais selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ça devrait être autour de 1600-1800 euros. Le montant reste également à définir. Il y aura par ailleurs un bonus, une prime plus importante pour les gros rouleurs, ceux qui font plus de 12 000 km par an, mais toujours sous condition de revenus. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette aide ne sera pas versée automatiquement. Trop compliqué de cibler les bonnes personnes. Il faudra donc en faire la demande pour y avoir droit. Face aux potentielles fraudes, le gouvernement a déjà prévu de croiser les fichiers des immatriculations pour vérifier que les personnes ont bien une voiture, avec les déclarations de revenus de la Direction Générale des Finances pour contrôler les informations sur les salaires.
Merci Geoffrey Bronger du service économie d'Europe 1. Et pour répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser sur ce projet de loi pouvoir d'achat, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sera notre invité tout à l'heure à 8h13.
Les salariés de la SNCF en grève hier ont pour leur part obtenu gain de cause.
Augmentation générale de 1,4% plus une hausse de 4% des indemnités liées aux heures de nuit, dimanche, fêtes et astreintes, soit 3,7% pour les petits salaires, 2,2% pour les cadres. La direction de la SNCF s'engage également à ouvrir des négociations annuelles sur les salaires dès le mois de décembre.
Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les voyageurs cet été. 5h05 sur Europe 1. Remettez le masque. Nouvel appel hier du gouvernement alors que 155 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés.
Christian Estrosi, le maire de Nice, est plus radical. Le masque sera à nouveau obligatoire dans les transports en commun de la métropole à partir de lundi pour faire face à la 7e vague. Les plus fragiles sont également invités à recevoir leur deuxième dose de rappel. Mobilisation générale, Yasmina Katou, car depuis quelques jours, les compteurs de l'épidémie s'affolent.
Oui, le nombre de cas de Covid recensés a été multiplié par 10 en un mois à peine. Nous étions à 20 000 cas début juin et la barre des 200 000 a été franchie ce mois de juillet. Le taux d'incidence a lui aussi augmenté. Un peu plus de 1100 malades pour 100 000 habitants contre 900 fin juin. À Paris, on compte même 2000 contaminations pour 100 000 personnes. Et pour les prochaines semaines, la tendance est à la hausse, explique Philippe Amouyel, épidémiologiste.
Il y aurait potentiellement un pic fin juillet. Ce qu'il faut maintenant, c'est la mise en œuvre de mesures dont on sait qu'elles agissent sur la progression de l'épidémie, la vaccination des plus fragiles, le port du masque dans les endroits qui sont mal aérés permettent de réduire ce pic.
Réduire le pic pour éviter les contaminations des plus fragiles et donc une surcharge des hôpitaux.
Alors justement, Yasmina, si les hôpitaux étaient jusqu'ici relativement épargnés, là aussi, les malades commencent à arriver en nombre.
Oui, il y a en moyenne 100 nouvelles admissions chaque jour dans les services de soins critiques. C'est 30% de plus que la semaine dernière. Au total, près de 17 500 patients sont hospitalisés avec une infection Covid. Alors pour l'instant, la situation semble contenue grâce à des taux de vaccination élevés. 83% des plus de 60 ans ont reçu au moins une dose de rappel. Aujourd'hui, dans les services de réanimation, la quasi-totalité des malades sont très âgés ou sont fragiles, d'où l'intérêt pour eux de se faire vacciner. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, hier, 130 000 personnes de plus de 60 ans ont reçu un second rappel.
Merci Yasmina Katou.
On passe au sport. On connaissait Monaco en Ligue 1 de football. Eh bien, vous apprendrez à connaître la Chine en championnat de France de volley.
Ça paraît un petit peu fou, pourtant ça pourrait bien arriver. L'équipe nationale chinoise veut intégrer notre championnat pour se préparer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cela pourrait même arriver dès la saison prochaine, Cyril de la Morinerie.
Oui, depuis 3 mois et demi, le volley français travaille dans le plus grand secret pour mener à bien ce projet iconoclaste. Séduite par les résultats de l'équipe de France, devenue championne olympique à Tokyo, la Chine, 17e nation mondiale, souhaite jouer en Liga pour préparer effectivement les JO de Paris. Alors bien sûr, la Chine ne pourra pas être championne de France, mais pour le reste, l'objectif est qu'elle se frotte aux meilleures équipes françaises. Match qui serait retransmis en Chine, un pays qui se passionne plus pour le volley que pour le foot, s'enthousiasme le président de la Ligue française, Yves Bouget.
Si jamais ça s'effectuait, les matchs de l'équipe de Chine dans notre championnat seraient retransmis en direct. Donc la caisse de résonance est colossale pour notre volley. Mais c'est surtout une vraie reconnaissance et ça devrait nous donner la capacité de développer et structurer notre volley.
La Ligue nationale française espère décrocher un contrat de 2 ans avec la Chine et obtenir près d'1,5 million d'euros par saison. Mais il faut maintenant attendre le feu vert du ministère des Sports. Une décision pourrait être prise d'ici 15 jours.
Merci Cyril de la Morinerie.
Et merci à vous Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h08 et on retrouve Thierry Léger, les courses, le pari gagnant de Thierry, bonjour.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 701 Bois d'Argent. Défendant la casaque du footballeur Clément Langlais, ce magnifique pur sang gris désormais âgé de 5 ans ne court qu'à bon escient grâce aux bons soins de son entraîneur Francis-Henri Graffard. Jugez plutôt 11 courses, 4 victoires et 7 fois dans les 3 premiers, 100% de réussite et il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas une nouvelle fois conclure à coup sûr dans les 3 premiers. Alors notez bien pour ce soir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 1, Bois d'Argent.
Le pari en or de Thierry Léger, merci beaucoup Thierry, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure, à tout de suite.
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet pour le pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Dimitri, on commence avec vos journaux qui consacrent tous leur une au discours de politique générale donné hier par la Première Ministre. Elisabeth Borne promet de l'écoute et de l'action, résume le Figaro. Donner du sens au mot compromis, ajoute le Parisien en citant la Première Ministre. Un mot que l'on retrouve également en une des Échos, la voix du compromis, peut-on lire en première page du quotidien. Le compromis, chiche, réagit Laurent Berger en une de Libération. Le numéro 1 de la CFDT estime notamment qu'annoncer à la rentrée le report du départ à la retraite, c'est, je cite, le chaos social assuré. Omblin, quel article avez-vous sélectionné?
Un article de Libération, Julien, qui à l'occasion de la diffusion d'un documentaire sur Arte revient sur ce jour fatidique où le sein de la chanteuse Janet Jackson est apparu à la télévision américaine, un petit bout de sa poitrine, partie intime de son corps dévoilée contre son gré, lors de la finale du Super Bowl en 2004 par Justin Timberlake. Pouf! Voilà, vous connaissez peut-être cette image, est extrêmement furtif. Pouf. Le sein droit de la chanteuse exposé moins d'une seconde à la fin de l'interprétation de Rock Your Body. Autant vous dire que la caméra a vite fait un plan large. Justin Timberlake arrache à un bout du costume de Janet Jackson. « Je devais juste révéler un soutien-gorge rouge », dira plus tard le chanteur pour tenter de se défendre. Il sort de cette histoire sans une seule égratignure. Janet Jackson, en revanche, est pointée du doigt. Elle est celle qui a fauté. Il y aura un avant et un après ce Nipplegate. Après ce 1er février 2004, un non-événement pour nous qu'on observe amusé de ce côté de l'Atlantique, mais qui révèle tout le paradoxe de ce pays tiraillé, selon Libé, entre puritanisme et obsession du divertissement, de l'entertainment. Scandale absolu en Amérique. Sexualiser le Super Bowl est impardonnable. Les médias s'emparent de l'affaire, s'en délectent, hein, j'ai envie de dire. Affaire qui remonte jusque dans la sphère politique, jusqu'à la Chambre des représentants des États-Unis, l'un des deux organes du pouvoir législatif américain. Rares sont ceux qui prennent position en faveur de la chanteuse. Ceux qui le font sont du parti des démocrates, hein, of course, comme ce démocrate Bobby Rush qui rappelle que cette haine anti-Jackson exprime une misogynie raciste digne d'avant la guerre de sécession. Petite dernière de la fratrie Jackson, princesse de l'Amérique, reine du R&B et Jerry Queer. Janet Jackson, dans les années 90, est une pop star en équilibre sur le fil du rasoir entre la prouesse artistique et la morale de la société, désignée comme fautive, donc, malgré son expression au moment des faits, surprise et choquée, malgré ses excuses, la carrière de Janet Jackson va dès lors décliner, inversement proportionnelle à celle de Justin Timberlake, qui lui va décoller. Janet Jackson et le Nipplegate dans Libération, le documentaire qui revient sur cet événement, ce non-événement pour nous Français, sera diffusé demain soir sur Arte.
Mais alors c'était intentionnel ou non alors ?
Alors ce qui était intentionnel, c'est qu'il devait arracher un bout du costume et dessous il y avait une partie rouge, un soutien-gorge
qui
rouge.
Qui est parti avec le morceau.
Qui est parti avec tout. En fait, il a tout arraché. Et ce qu'il devait arracher, juste le costume noir en fait, le vinyle.
Et ben voilà,
tout est parti.
On sait tout.
Tout est parti, mais tout c'est la faute de Janet. C'est incroyable.
C'est tragique. Merci beaucoup, Ombline. Dimitri, c'est à vous.
Eh bien, j'ai sélectionné un article du Figaro qui pourrait bien vous être utile, surtout si vous nous écoutez au volant ce matin, puisqu'une étude réalisée par l'association Assurance Prévention nous apprend que pour lutter contre la somnolence au volant, rien de mieux que de la musique. Et pas n'importe laquelle, une musique qui vous plaît. Pour réaliser cette étude, eh bien, plusieurs participants ont été placés dans un simulateur de conduite pendant 90 minutes sur autoroute, en étant chacun exposé à différentes simulations auditives. Le ronronnement normal d'une voiture, une musique imposée ou une musique choisie par le conducteur. Et le résultat, eh bien, il est sans appel. Ceux qui écoutaient la musique de leur choix étaient beaucoup plus éveillés. Le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue à l'origine de cette enquête, explique que ce phénomène est en réalité dû à l'activation de la zone plaisir de notre cerveau, ce qui nous permet de rester globalement réveillés. Donc Julien, Ombline, moi j'ai une question que je me pose tout de suite, instinctivement. Quelle sera votre musique sur la route des vacances ? On commence par vous, Ombline ?
On va dans le sud, hein ?
Ah oui,
alors on va... Sarah Perchettiamo, bien sûr, hein, Ricci Poveri.
Des origines italiennes ?
Évidemment, pas du tout, mais alors pour moi c'est le soleil, c'est les vacances, c'est la plage.
Et bah moi je suis d'origine italienne, mais moi je pars en vacances dans le nord.
Plus traditionnel.
Ah, ça c'est le rituel à chaque départ de vacances. Dans la voiture ça fait très bien. Pierre Bachelet.
Donc Pierre Bachelet vous tient éveillé sur la route.
Absolument.
Moi j'aurais plus choisi quelque chose de plus funky, fraîche, Cool and the Gang par exemple.
Ah, bien sûr.
Ouais, mais ça c'est la sortie de route assurée là. Ça danse.
Ça fonctionne totalement.
Donc voilà, une étude très intéressante, hein, quand on sait que le facteur somnolence et fatigue est la première cause de mortalité sur autoroute. Donc en ce jour de début de vacances scolaires, si vous prenez la route, un conseil, un bon café et restez à l'écoute d'Europe 1. On avait oublié notre réalisateur.
Le soleil.
Vous êtes aussi beaucoup plus estival, mon cher Fabrice, que les corons.
Que les corons du triste Pierre Bachelet ou du triste Julien Pierce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitri. J'ai choisi pour ma part un article du journal L'Équipe, article qui débute par une scène digne d'un film d'espionnage. 10 soldats, cagoulés et armés, surgissent de 4 voitures aux vitres teintées. Nous sommes vendredi dernier à Saint-Pétersbourg, sur la route menant à l'aéroport. Manu Militari, un colosse de 2 mètres est extrait d'un véhicule puis menotté. Cet homme, c'est Ivan Fedotov, un hockeyeur professionnel de 25 ans, gardien de but de l'équipe olympique russe. Son tort ? Avoir voulu s'envoler vers les États-Unis où l'attendait un contrat d'un an et un salaire de 950 000 $ chez les Flyers de Philadelphie en NHL. Alors officiellement, Fedotov est accusé en pleine guerre menée par l'armée de Poutine en Ukraine d'avoir tenté de se soustraire au service militaire, ce que dément accessoirement vigoureusement son avocat. Mais la vraie explication à cette arrestation, c'est l'humiliation, l'image terrible qu'aurait représentée pour le Kremlin dans le contexte actuel, le passage à l'ouest d'une personnalité russe de premier plan. Car Fedotov n'est pas un hockeyeur lambda, qui est au passage le hockey, le sport préféré de nos amis russes. Il jouait la saison passée au CSKA Moscou, c'est le club de l'armée. Et puis c'est le gardien de l'équipe nationale qui a décroché la médaille d'argent au JO de Pékin en février dernier. Un sportif identifié par tous les Russes donc. Voilà pourquoi dans le monde merveilleux de Vladimir Poutine, il eût été impensable de voir Fedotov s'illustrer sur les patinoires de l'oncle Sam. Il faut savoir que depuis 10 ans, aucun hockeyeur russe n'a effectué son service militaire quand il était professionnel, souligne dans l'article un spécialiste de la Russie, pour qui cette arrestation est un message envoyé à tous les sportifs du pays. Si vous nous quittez, vous êtes des traîtres, vous serez punis. Et comme le Kremlin est réputé en la matière pour joindre le geste à la parole, le jeune homme a été envoyé sans ménagement dans une base militaire en Nouvelle-Zemble. C'est un archipel situé dans l'océan glacial arctique. Il fait à peu près moins 40 en permanence, où il va devoir passer une année entière. Elle pourrait être suivie de 2 ans de prison, histoire de bien enfoncer le clou une bonne fois pour toutes. Et si ce n'était pas suffisant, sitôt le pied posé au goulag, Fedotov pourrait avoir été empoisonné. Il dit qu'on lui a fait une sorte d'injection d'un produit qu'il ne connaît pas depuis une pas très bien, assure son avocat. Alors cette affaire est sans précédent et cause en tout cas une certaine inquiétude dans la NHL, car pas moins de 57 Russes jouaient la saison passée dans le championnat américain. Or, bon nombre d'entre eux sont rentrés au pays, ce qui est normal hein, pour passer l'été. Le régime va-t-il les laisser briller à la rentrée pour le compte d'équipes américaines ou canadiennes? C'est là toute l'inconnue. Recruté en NHL, arrêté en Russie, le gardien médaillé olympique Ivan Fedotov, symbole du retour du rideau de fer, c'est-à-dire sur le site de l'équipe.
Elle est dingue cette histoire. Merci beaucoup Julien. Merci Dimitri. Et on se retrouve dans 40 minutes pour parler à nouveau de sport.
Exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Europe 1. Chaque matin, on donne la parole à celles et ceux qui innovent. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Hugues de Chaumont.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur et président de GoSense, une entreprise basée à Lyon qui veut simplifier la vie des aveugles et des malvoyants grâce à un boîtier qui rend les cannes blanches intelligentes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Donc GoSense, on est labellisé entreprise sociale et solidaire. On a développé une technologie qui est brevetée en France, une technologie de réalité augmentée sonore 3D, c'est-à-dire qu'on met en son l'environnement de nos utilisateurs qui ne peuvent plus voir, mais qui par contre ont le sens de l'ouïe qui est très développé. Donc on capitalise là-dessus. Et donc on a conçu une technologie de réalité augmentée sonore qui s'appelle Rango. Rango, c'est un petit produit électronique qui se fixe sur tout type de canne blanche, qui est connecté au smartphone de l'utilisateur. L'utilisateur va connecter des écouteurs qui sont particuliers puisqu'ils ne rentrent pas dans l'oreille. Donc l'utilisateur reste alerte à son environnement sonore, ce qui est important quand on est une personne déficiente visuelle. Et donc Rango, son job, c'est de sécuriser l'utilisateur dans ses déplacements. Il va analyser les déplacements de l'utilisateur, il va traquer les obstacles qui sont sur le parcours de l'utilisateur.
Et lorsqu'il y a un obstacle... C'est une sorte de radar en fait, c'est ça ?
Exactement, Julien. C'est une sorte de radar. On envoie des ultrasons et on va analyser l'environnement de l'utilisateur. Et dès qu'il y a un obstacle qui est sur le parcours, le chemin de l'utilisateur, on va l'alerter par un son, mais un son en 3 dimensions.
C'est-à-dire ?
Alors, un son en 3D, c'est tout simplement là où il y a le son, c'est là où il y a l'obstacle. Donc, Rango va détecter un obstacle. Et si l'obstacle par rapport à vous est sur votre gauche, vous allez entendre un son qui provient de la gauche. Et donc, vous allez entendre un son dans votre oreille gauche. Si l'obstacle est à droite, vous allez entendre un son dans votre oreille droite. Donc c'est vraiment de la 3 dimensions.
Le résultat, c'est que les personnes aveugles équipées de votre système se déplacent plus rapidement, en tout cas avec moins d'appréhension.
La canne blanche, elle est limitée pour les obstacles qui sont à mi-hauteur ou en hauteur. Et donc Rango, lui, va venir augmenter la canne blanche. Et puis en fait aussi, très souvent en pratique, quand on balaye avec sa canne blanche, eh ben, avec le balayage, on va pouvoir aussi louper des obstacles au niveau du sol. Donc c'est quand même très important. Rango, lui, finalement, rend la canne blanche bien plus performante, mais il réutilise la canne blanche, il va venir se fixer sur la canne blanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la canne blanche, elle permet de se signaler aussi en tant que personne déficiente visuelle. C'est-à-dire que vous, Julien, si vous allez dans la rue et que vous voyez une personne avec une canne blanche, vous allez vous dire « Ah, il faut que je fasse attention à cette personne parce qu'elle est aveugle ». Donc c'est important.
Je crois que le boîtier ne se contente pas, et c'est déjà très bien, hein, mais de détecter les obstacles, il sert aussi de GPS ?
Oui, voilà, une fois que Rango, en fait, son premier job, c'est la sécurité. Mais une fois qu'on est en sécurité, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est et ce qu'on a autour de soi. Et donc, Rango, il va proposer d'autres services. Parce que comme il est connecté au smartphone de l'utilisateur, qu'il a une application mobile dédiée, on va pouvoir le mettre à jour, faire des mises à jour logicielles. Et grâce à ça, on va proposer des nouveaux services à la mobilité qui sont vraiment des services résolument urbains. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir votre localisation. Donc, Rango va vous dire où vous êtes, dans quelle rue, à quel numéro. Mais vous allez pouvoir aussi accéder à tous les horaires de passage des transports en commun, les bus, les métros, les tramways, mais aussi les trains régionaux, les petites lignes. Et donc ça, c'est possible en France, mais c'est aussi possible dans le monde entier. C'est accessible dans votre langue, dans le monde entier, et gratuitement grâce à Rango. Donc en fait, vous êtes à votre arrêt de bus et vous avez accès à vos horaires en totale autonomie. Si vous marchez dans la rue, vous allez pouvoir aussi être alerté et avoir la description vocalisée des carrefours et des intersections que vous allez croiser. Et en plus, cette description, elle va être spatialisée, c'est-à-dire qu'il y aura du son 3D, c'est-à-dire que l'information va être en trois dimensions et donc la personne va entendre la description de toutes les rues qui constituent son carrefour, que elle doit analyser, elle doit traverser. Et comme les informations sont vraiment en trois dimensions dans son environnement, quand elle entend le nom de la rue, elle sait que si la rue est à 30 degrés à gauche, parce qu'elle l'entend par le son, eh ben elle arrive tout de suite à visualiser son carrefour. Et donc, ça permet de traverser piétonne plus facilement et surtout en restant en sécurité, puisque de temps en temps, les personnes aveugles peuvent se mettre à traverser une rue sans s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, on est dans des espaces urbains qui sont partagés avec des piétons, des transports en commun, des voitures. Et donc, on n'a pas toujours une différence au niveau du sol entre le trottoir et la route. Oui. Voilà.
Combien de personnes utilisent au quotidien votre produit ?
Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 400 utilisateurs. Les utilisateurs les plus jeunes ont moins de 15 ans. Et les utilisateurs les plus âgés ont plus de 80 ans. Vous vous rendez compte ? Tous sont formés et tous bénéficient d'un suivi réalisé par GoSense, qui fait partie du kit Rango. Et tout ça se fait à distance par téléphone. Et ça marche super bien. On a réalisé une étude auprès de nos utilisateurs fin 2021, puisqu'on était en train de certifier Rango, de le rendre conforme aux normes du dispositif médical au niveau européen.
Pour qu'il soit remboursé, c'est ça ?
Voilà, exactement, pour qu'ils puissent être remboursés. Et dans ce cadre-là, on a fait une étude sur l'impact de Rango chez nos utilisateurs. 96% de nos utilisateurs disent que Rango a significativement amélioré leur quotidien. Et vous avez un utilisateur sur cinq qui va même jusqu'à nous dire que Rango a changé sa vie. Donc effectivement, vous voyez juste, Julien, si je peux me permettre, effectivement, Rango a un impact. Ouais.
Merci beaucoup, Hugues de Chaumont, de nous avoir présenté GoSense et son boîtier Rango qui change la vie des aveugles. On peut se le procurer, je précise, directement via votre site internet gosense.com. Bonne journée,
voilà,
à bientôt.
Merci Julien. Sans que je passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. De ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
Mathieu Chédid, de plutôt son alter ego M, avec Dans ta radio, titre que l'on retrouve sur son nouvel album intitulé Rivalité. M que vous pourrez voir sur scène ce soir à Aix-les-Bains dans le cadre du festival Musilac. Angèle, Niska ou encore Stéphane sont aussi à l'affiche.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à vous, bon réveil. Merci de nous avoir choisis pour votre réveil. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamar. Et puis, soirée concert ce jeudi sur la chaîne C8 pour l'association Psychodon.
Une association qui vise à accompagner, soutenir et sensibiliser le plus grand nombre sur les maladies psychiques. Rendez-vous avec la diffusion du grand show caritatif enregistré sur la scène de l'Olympia à Paris et emmené par le parrain Yannick Noah. Nous serons avec le fondateur du Psychodon, Didier Meyrand, dans 15 minutes.
Et puis, juste après, Olivier Pouls nous propose pour les vacances de faire du gastro-tourisme.
Oui, autrement dit, de profiter de l'été pour partir à la rencontre des producteurs de nos régions.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat s'invite donc au menu du Conseil des ministres cet après-midi. 25 milliards d'euros de dépenses pour amortir l'inflation. On y trouve pêle-mêle la suppression de la redevance audiovisuelle, l'aide alimentaire de 100 euros ou encore un chèque carburant. On ne connaît pas encore tous les contours, mais on a voulu savoir ce qu'en pensaient les automobilistes. Wilfried de Villers leur a posé la question au reportage dans une station-service de la région parisienne.
Je préférais pas regarder en fait.
Après le plein, toujours la même stupéfaction. Même avec l'habitude, Marion ne se fait toujours pas au prix.
81 euros et 20 centimes.
Ouais, pour 40 litres.
Quoi. Ouais, à peine le plein.
Quand on lui parle d'une éventuelle aide du gouvernement, elle lève les yeux au ciel.
Ça sera bienvenu sur le moment, mais après ça sert à rien. Ça va pas me changer mon quotidien durablement. Donc y a peut-être mieux à faire.
Et cette travailleuse libérale a bien une idée en tête.
Pour le libéral, ça va rentrer dans mes charges. Après, j'espère qu'il y aura une adaptation du barème forfait kilométrique par rapport à l'année dernière.
Fabrice, lui, est salarié. Il travaille dans la manutention tout proche de mes rues, à une vingtaine de kilomètres de chez lui. Ce chèque carburant, il compte dessus.
Je gagne un peu plus du SMIC, c'est sûr que c'est appréciable. Après, est-ce que c'est la seule mesure à prendre? Peut-être une baisse de la TVA, ce serait une bonne chose.
Une baisse des taxes, des mesures plus structurelles, c'est aussi ce que réclame Jason.
La bonne mesure, ce serait qu'il baisse le prix du carburant, tout simplement. Parce qu'un chèque, on va en avoir un. Ok, on va être content, mais après, il n'y a quoi après? Y a rien.
L'indemnité carburant travailleur, comme l'appelle l'exécutif, pourrait être versée dès l'automne prochain.
Un reportage Wilfried de Villers.
Et on reparlera de ce chèque carburant et de ce projet de loi anti-inflation avec Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1. Le ministre de l'économie sera l'invité de Sonia Mabrouk à partir de 8h13. On en vient au discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée. C'était hier. Examen de passage plutôt réussi. Et ce qui est à noter, c'est plutôt cette main tendue aux Républicains.
À 1h30 de discours, un appel à rassembler le pays pour défendre la République et protéger les Français. Elisabeth Borne a fixé le cadre et adressé plusieurs clins d'œil aux députés Les Républicains, la valeur travail, la rigueur budgétaire, sans oublier la réforme des retraites. Des thèmes chers à la droite, Alexandre Chauveau, ce pas en avant de la Première ministre est aussi une façon de placer LR face à ses responsabilités.
Oui, après avoir longuement insisté sur sa volonté de trouver des compromis avec les oppositions, c'est surtout aux 62 députés des Républicains qu'Elisabeth Borne s'est adressée. Le désordre et l'instabilité ne sont pas des options, dit-elle, comme pour prendre à témoin LR, qui revendique être un parti de gouvernement. Mais c'est surtout dans les thèmes abordés que la Première ministre a parlé à la droite. Laïcité, je cite, sans accommodement ni compromission, décentralisation ou encore rigueur budgétaire, en s'adressant cette fois directement au président du groupe LR à l'Assemblée.
L'équilibre de nos finances publiques est une question de souveraineté. Je sais que beaucoup y sont attachés sur ces bancs. Nous en avons parlé justement, monsieur le président Marleix.
Alors la Première ministre a répété cette formule oratoire avec tous les présidents de groupe, excepté Mathilde Panot et Marine Le Pen. Mais les clins d'œil aux Républicains se sont ensuite multipliés. Heures de travail obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, réforme des retraites et surtout mise en valeur du travail et de l'entrepreneuriat. Autant de thèmes portés par Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle et qui contraignent la droite à se positionner clairement face aux propositions à venir du gouvernement.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, discours de politique générale très critiqué par les deux principaux groupes d'opposition à l'Assemblée. Pour Marine Le Pen, la Première ministre a d'abord un problème de légitimité. Son maintien à Matignon est une provocation politique, assure la chef de file du Rassemblement national. Mathilde Panot pour la France Insoumise raille la stratégie du sauf qui peut.
Elisabeth Borne sous la pression donc de l'opposition, mais ce n'est rien à côté de ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. On s'interroge ce matin sur l'avenir de Boris Johnson au poste de Premier ministre.
Et plus que jamais isolé, il est désormais lâché par ses propres troupes. Les démissions de ministres et de secrétaires d'État l'État se succèdent, une sorte de sauve-qui-peut, une quarantaine de membres du gouvernement ont claqué la porte. Boris Johnson, confronté à la fronde et à des appels à la démission en provenance de son propre camp. C'est le cas du député conservateur Dominic Grieve.
C'est une situation sans précédent. Normalement, les règles du jeu parlementaire de la politique britannique veut dire que quand le moment arrive qu'un Premier ministre perd l'appui de ses ministres et l'appui de son parti s'évapore, il démissionne, il part honorablement. Mais ce qui est évident, et ça indique quelque chose de très inquiétant dans la personnalité du Premier ministre, c'est qu'il semble résister, insister qu'il va rester. C'est incroyable, mais ça ne me surprend pas du tout, parce que l'ayant vu comme parlementaire et comme collègue, je me suis rendu compte assez tôt que c'est un individu qui ne respecte pas du tout les normes, les conventions de la politique que nous avons dans notre pays. Il fait ce qu'il veut, c'est une conduite insensé, l'histoire va écrire de lui des choses très dures.
Le député conservateur Dominic Grieve avec Anaïs Cordoba. Une femme tuée lors d'une attaque au couteau en Suède, agression en plein jour sur l'île de Gotland qui sert de cadre à la réunion annuelle des principaux leaders politiques du pays. Un homme de 33 ans a été interpellé. Les enquêteurs restent très prudents sur le mobile, peut-être politique.
On revient en France avec à la SNCF des salariés qui obtiennent en partie satisfaction sur la question des salaires après une grève de 24 heures.
La direction accorde 1,4% d'augmentation générale, hausse de 4% des indemnités pour le travail de nuit, le dimanche, les jours fériés de fête et d'astreinte. Les syndicats saluent des avancées. Si vous aimez les glaces, un conseil, ouvrez votre congélateur et vérifiez la marque et le parfum indiqués sur l'emballage. Häagen-Dazs rappelle 4 lots de glace vanille commercialisés en France sous le nom de Vanilla Collection. Des traces d'oxyde d'éthylène, pesticides cancérigènes interdits ont été détectées. Une indication, la date limite de consommation part du 6 juillet 2022 au 21 mai 2023. Un numéro vert gratuit pour tout renseignement, le 0800 33 32 31.
On part sur les routes du Tour de France avec l'étape la plus longue de la Grande Boucle, près de 220 km à parcourir aujourd'hui.
219 km 900 pour être très précis, à peine le temps de se remettre de celle d'hier et de ses 11 secteurs pavés. Wout van Aert est toujours maillot jaune, mais le double vainqueur Tadej Pogacar est en embuscade au général. Le Tour partira de Binche en Belgique, un choix qui n'est pas totalement dû au hasard, Axel May.
Binche, surtout connu pour son carnaval depuis le XIVe siècle, a su se faire une place sur la carte du cyclisme. Il y a 3 ans, la ville, toute proche de la frontière française, avait déjà accueilli une étape de la Grande Boucle. Jean-François Bourlard dirige l'une des 4 équipes belges engagées sur le Tour, la formation Intermarché Wantigobert, dont le siège social se trouve justement à Binche.
Vous savez que la ville de Binche avait quand même bien réussi sa première participation au Tour. On avait relevé presque 100 000 personnes sur un départ finalement d'une 3e ou 4e étape d'un Grand Tour. Et je pense que ça a tapé dans l'œil quand même des organisateurs et qui sont contents d'y revenir cette année.
Après un grand départ du Danemark, le Tour fait donc une nouvelle escale hors du territoire hexagonal. Le peloton parcourra 70 km en Wallonie avant de repasser la frontière. Et ce n'est pas pour déplaire au jurassien Alexis Vuillermo.
Il y a presque même plus de ferveur généralement dans les pays frontaliers parce qu'on voit qu'ils attendent vraiment le Tour de France. Et moi, je trouve ça plutôt plaisant de voir que le Tour de France, c'est vrai que c'est une course autant suivie à l'étranger qu'en France.
Le Tour, décidément très international cette année, puisque samedi, il arrivera à Lausanne et dimanche, repartira d'une autre ville suisse, Aigle.
Axel May du service des sports d'Europe 1 est arrivé de cette 6e étape prévue à Longwy en Meurthe-et-Moselle. Le tennis, qualification dans la douleur pour Rafael Nadal, vainqueur en 5-7 de l'américain Taylor Fritz. L'Espagnol souffre des abdominaux et ne sait pas s'il pourra disputer sa demi-finale demain face à l'Australien Nick Kyrgios.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce Quintet, un handicap réservé à la jeune génération. Des poulains et pouliches âgés de 3 ans et parmi les 16 partants, j'ai choisi les numéros 15, Louman, 3, Licorne et 13, Gaylor Senora, entraînés tous les 3 à Deauville et qui possèdent à l'évidence une première chance. Et je sais que leurs entraîneurs respectifs, Stéphane Vatel, Yann Barbereau et Stéphane Cyrulis, envisagent fermement de terminer dans la combinaison gagnante de ce Quintet. Derrière ces 3 priorités, je vous recommande les numéros 9, Swift Spirit, l'une des 3 pensionnaires d'Henri Alex Pantal, que j'ai vu vraiment bien gagner en dernier lieu sur l'hippodrome de Cran. 2. Sunfast, un poulain sérieux et endurci à suivre dès sa première tentative dans cette catégorie des quintés. Et 16. Sunray, qui a vraiment le bon profil lui aussi pour réussir d'emblée à ce niveau. Enfin, les numéros 12, Savoureuse, et 8, Red Crazy, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 15, 3, 13, 9, 2, 16, 12 et 8.
Des pronostics que vous retrouvez dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Vous écoutez le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe.
C'est aujourd'hui que commence l'une des plus grandes manifestations au monde consacrée au théâtre, le Festival d'Avignon. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure, vous avez plongé dans les archives d'Europe 1 et la première fois où l'on parle du Festival d'Avignon, c'est en juillet 1968.
Oui, la ferveur de mai 68 retombe un peu partout en France, sauf à Avignon qui s'apprête à accueillir la 22e édition du festival. C'est l'un des rares rendez-vous culturels à être maintenu. Le festival de Cannes, lui, a été écourté. Et beaucoup, toutefois, à Avignon n'ont pas pu répéter à cause des grèves et de l'occupation des théâtres. Le public afflue et les contestataires aussi. Certains veulent poursuivre à Avignon le mouvement de mai 68.
Qu'est-ce que vous voulez faire ici, à Avignon ? Essayer d'avoir une certaine liberté d'expression politique, d'une manière ou d'une autre, puisqu'on ne l'a pas par les groupes en politique, on peut l'avoir dans le cadre peut-être de la culture. Mais on avait l'accord de Béjart hier soir.
Et en plein festival, le chorégraphe Maurice Béjart, venu avec sa troupe, prend la parole.
Avec mes danseurs, je suis devant vous et je vous dis que je jouerai.
Eh bien, dansez,
je vous dis.
Pourquoi manifestez-vous ?
Pour revendiquer une liberté d'expression qui est absolument abolie actuellement. Dans tous les domaines, et en particulier au Festival d'Avignon.
Le préfet a en effet interdit plusieurs pièces en cet été 68. Beaucoup dénoncent un festival qui est soumis à l'industrie culturelle. Maurice Béjart, lui, est solidaire du directeur du festival, Jean Villard, et il ira jusqu'au bout des 19 représentations prévues avec un taux de remplissage à 100%.
Mais les tensions et les polémiques continuent pendant tout l'été 68 à Avignon, Laure.
Oui, en particulier parce que différents publics s'affrontent aussi, les anarchistes, les gens de droite, d'extrême droite. Jean Villard, lui, répond le 12 août 68 aux auditeurs sur les ondes d'Europe numéro 1 sur le renouveau du public.
Je voudrais demander à monsieur Jean Villard s'il ne pense pas que c'est un peu toujours le même public qu'on retrouve au Festival d'Avignon. On a l'impression que ce sont toujours les mêmes habitués qui se retrouvent d'une année sur l'autre.
Le pourcentage est le suivant parmi sur 100 spectateurs. Il y a environ 45% qui vient pour la première fois, mais reste encore la classe ouvrière qui est encore trop minoritaire à l'intérieur de ce festival qui se veut populaire. Nous savons que c'est extrêmement difficile pour arriver à toucher la classe ouvrière. Faut-il jouer des œuvres très très faciles pour attirer un public populaire ? Ce n'est pas certain d'abord.
Jean Villard meurt 3 ans plus tard, en 71. Il dira que cet été 68 au Festival d'Avignon aura été l'occasion de réfléchir sur les problèmes qui se posent, que le théâtre, plus que jamais, aura été un moyen d'information et de réflexion.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant, sur Europe 1, on parle du grand concert caritatif, le Psychodon.
Europe 1, la France bouge,
par Elisabeth Assayag.
C'est une entreprise qui fait rêver et nous fait regarder vers les étoiles. Le PDG d'Ariane Group sera l'invité de La France Bouge. Nous parlerons de la bataille de l'espace et de la souveraineté du ciel.
La France bouge.
Alors, à tout à l'heure, 13h, sur Europe 1.
Peugeot. Il est entre 2 et 6 heures du matin, et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie de la famille des Lefteaux. Et comme plein de Lefteaux, vous êtes artisan ou commerçant au volant de votre utilitaire, réfléchissant à tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui et vibrant au rythme des ronflements du moteur. Alors que vous pourriez au moins vous épargner ça au réveil. Oui, ça, les vibrations et le bruit du moteur, en passant à l'électrique. L'électrique, tôt ou tard, vous y viendrez. Alors autant le faire très tôt, avant tout le monde.
Toute la gamme utilitaire Peugeot existe en 100% électrique.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Soyez tous les bienvenus si vous venez de brancher Europe 1. Il est 5h44 et c'est ce soir sur C8 que vous pourrez découvrir pour la 4e année consécutive le Psychodon, concert caritatif enregistré le 13 juin dernier dans la salle mythique de l'Olympia à Paris. Et sur scène, des artistes unis afin de sensibiliser le grand public sur les maladies psychiques et briser les tabous qui entourent la santé mentale.
Bonjour Didier Meyran.
Bonjour Lynn.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de l'association Psychodon. Le concert exceptionnel enregistré il y a un peu plus de 2 semaines sera diffusé ce soir sur la chaîne C8 à 21h15. Racontez-nous ce qu'on va voir, qui on va voir.
Alors le tournage a eu lieu en public le 13 juin à l'Olympia.
Et c'est important parce que l'Olympia, c'est une salle mythique, comme vous le disiez, et c'est l'occasion de mettre la santé mentale sous les feux des projecteurs, parce que la santé mentale souffre d'un tabou, parce que les maladies comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, l'anorexie mentale, ça fait peur, ça touche à nos plus grandes fragilités et il faut une grande salle mythique, très éclairée pour parler de santé mentale. Et je recevrai, comme chaque année, Yannick Noah, qui est le parrain du Psychodôme, et Christophe Willem, Black M, aussi Zaz et plein d'autres artistes qui chantent pour la santé mentale et qui aident à sensibiliser, à faire changer les regards sur les maladies psychiques et à collecter pour des porteurs de projets des associations qui ont postulé partout en France.
Tous fragiles, tous concernés, c'est le slogan du Psychodôme. On peut tous être confrontés à une maladie psychique et je ne parle pas de blues ou de spleen.
Non, la crise sanitaire, la crise Covid a eu pour effet bénéfique de tous nous faire prendre davantage conscience que nous avions une tête, nous avons une santé mentale, la rupture du lien aux autres, le déni, le repli, abîme notre santé mentale, met en avant des émotions comme la colère, la tristesse. Et quand ces émotions priment et que la tristesse s'installe, la maladie psychique devient chronique comme la dépression. Et c'est une vraie maladie. Nous sommes tous fragiles, tous concernés. Il nous suffit d'un traumatisme dans nos vies. Perdre un travail, perdre un proche, un bouleversement dans nos vies et la maladie psychique est réactivée. Parce que nous sommes tous sensibles, tous fragiles, tous concernés. La maladie psychique est biopsychosociale, elle n'est pas génétique, mais elle est biologique. Nous sommes tous exposés. Elle est psychologique parce que nous sommes tous confrontés à des traumatismes. Et elle est sociale parce qu'elle dépend de avec qui nous avons grandi à l'école, avec qui nous avons commencé à travailler. Et ce sont ces trois critères, le bio, le psycho et le social, qui font notre santé mentale et qui orchestrent nos six émotions que sont la tristesse, la joie, la colère, la surprise, le dégoût. Et lorsque ces émotions sont bien orchestrées, bien, c'est l'harmonie, nous allons bien. Et lorsque ces émotions commencent à dysfonctionner, que cela s'installe, que cela se chronicise, bien, nous pouvons être malades et avoir une maladie psychique comme la dépression ou la bipolarité ou une autre.
Et Didier Meyran, les jeunes ne sont pas à l'abri. Dans votre dernier sondage, un jeune sur quatre entre 16 et 24 ans, donc c'est vraiment jeune, hein, un jeune sur quatre entre 16 et 24 ans déclare être malheureux à l'âge où on a le droit d'être insouciant. Comment vous l'expliquez ?
La crise Covid a vraiment impacté les jeunes. Vous savez, dans ce sondage, vous avez un autre chiffre, 30% des jeunes de 16 à 18 ans déclarent avoir une pensée suicidaire quotidienne, c'est un passage à l'acte suicide, une tentative de suicide toutes les 3 minutes, un suicide abouti toutes les heures. Chez les jeunes, la rupture du lien aux autres a vraiment impacté leur santé mentale. Et puis c'est une génération qui a été confrontée à des traumatismes nouveaux. Pour aller acheter de la musique, il faut passer des portiques, vider son sac. Les terrasses sont devenues risquées, ils ont grandi avec le risque terroriste. Les balades sont venues risquées à Nice, ils ont aussi grandi avec des images violentes à la télévision. Le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, eh bien, il y a de quoi fragiliser la santé mentale des jeunes. Il faut les aider à aimer le monde dans lequel nous vivons, à regarder l'autre avec bienveillance et à ce que les autres regardent les jeunes avec bienveillance, tout simplement parce qu'ils sont, notre avenir, ils sont notre force et c'est avec eux que nous allons élaborer peut-être un monde nouveau, un monde avec plus de sens.
Célébrer les émotions et chanter pour la santé mentale, c'est le but de cette soirée de concert. Le message que vous souhaitez faire passer, Didier Meyran, c'est qu'il ne faut pas ignorer la santé mentale, la sienne, mais aussi celle de ses proches. Il faut être en alerte continuellement.
Oui, il faut être en alerte continuellement, regarder l'autre, écouter l'autre. Et quand quelqu'un va mal au travail, quelqu'un qui va mal dans votre environnement, je vais peut-être vous surprendre, mais il faut arrêter de lui dire « Salut, comment ça va ?» Mais il faut peut-être lui dire « T'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux t'aider ?» Et les mots, souvent, suffisent à enclencher le lien et peut-être d'aller consulter. Nous, on dit toujours au psychodon « T'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, tu as un problème de vue, tu vas chez l'ophtalmologiste, tu te sens pas bien dans ta tête, il n'y a pas de tabou, faut aller voir un psy, il y a pour ça l'annuaire Mon Psy, il y a Mon Cher Psy, il y a des tas d'offres. Maintenant, depuis le mois de mai, des séances sont conventionnées, remboursées pour tous. Dès les premiers troubles, il faut consulter parce que sa santé mentale, c'est fondamental. Aller bien avec soi, c'est aller bien avec les autres. Donc oui, nous devons tous être vigilants autour de nous parce que vous savez, une personne sur quatre concernée par un trouble psychique, nous sommes tous concernés autour de nous.
Et c'est le message que vous faites passer par le biais de cette soirée sur C8, la diffusion dès 21h15 de ce grand concert caritatif pour la santé mentale avec le parrain Yannick Noah, vous l'avez dit, avec aussi, entre autres, Célassou, Zaz, Kinvé, Claudio Capéo, Gaëtan Roussel, Jérémy Frérot, Black M, hein, je ne vais pas tous les citer. Merci beaucoup Didier Meyrand d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Psychodon. Merci, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
C'est une histoire de fou, ça va pas bien la tête. Moi je suis seulement comme vous, pas très net. C'est une histoire de fou, mais ce serait pas bête. Que tout soit normal entre nous, moi je suis comme vous, pas très net.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Une renationalisation pour écarter le risque de quasi-faillite. Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé l'intention du gouvernement de reprendre 100% du capital contre environ 84% aujourd'hui d'EDF. Objectif notamment pouvoir investir massivement dans les nouveaux programmes nucléaires. Elisabeth Borne, qui a passé son baptême du feu hier en prononçant son discours de politique générale, la première ministre a appelé à bâtir des compromis. Sur le fond, elle a notamment confirmé que le projet de loi pouvoir d'achat serait présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis attention, cette période de chaleur, le groupe propriétaire d'Agendas rappelle 4 lots de glace à la vanille commercialisés en France après la détection de traces d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe.
Je ne sais pas pour vous, ma chère Ombline, mais je commence à avoir un petit creux.
Oui, peut-être qu'on accueille à présent notre spécialiste gastronomie. C'est mieux. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour Olivier. Alors c'est la dernière de l'année et alors que certains sont en vacances ou vont l'être très prochainement, vous nous proposez votre version du tourisme, le gastro-tourisme. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien vous savez, en chance, nous avons en France, nous avons la chance de posséder, nous l'avons vu tout au long de l'année, le plus fantastique patrimoine gastronomique au monde. Et je pèse mes mots. Alors des fruits, des légumes, du vin, de l'élevage, de la pêche, des fromages, de la viande. Et si durant tout cet été, vous délaissiez un peu les supermarchés pour aller à la rencontre de tous ces gens qui travaillent le plus souvent l'été d'ailleurs pour nous nourrir, pousser la porte d'une ferme, d'un domaine viticole, aller récolter soi-même ses légumes ou ses fruits, rencontrer un pêcheur ou s'attabler dans une ferme auberge. L'été est la saison idéale pour rencontrer ces agriculteurs qui nous nourrissent avec passion. Voilà, c'est ce que j'appelle le gastro-tourisme. Et je vous invite à l'essayer.
Et c'est vrai que rien ne remplace le contact humain et qu'après avoir échangé avec ces personnes, on ne regarde plus finalement ce qu'il y a dans notre assiette ou dans notre verre, de la même façon.
Bah oui, vous savez, si les tomates que vous allez manger ce midi ou ce soir, d'ailleurs en salade, vous êtes allé les cueillir vous-même dans une ferme cueillette, et il y en a un peu partout en France, que vous avez échangé avec le producteur, que vous l'avez tâtée, sous-pesée et choisie pleine et gorgée de soleil, elle aura forcément une saveur différente. Et si le petit vin que vous dégusterez peut-être avec est issu de la cave d'un vigneron qui aura pris un peu de temps pour vous expliquer où il est né, sur quel terroir, ce qu'il a fait pour l'élever et lui donner sa personnalité, là aussi le vin aura un autre goût. Comprendre ce que nous mangeons ou ce que nous buvons, c'est fondamental.
Et puis c'est aussi un moyen de, accessoirement, enfin c'est pas accessoire, mais de mieux rémunérer les producteurs.
Et bien sûr, puisqu'en achetant directement chez lui, pas d'intermédiaire, et donc un juste prix pour le travail effectué. Et vous le verrez, ce n'est pas forcément plus cher que de faire ses courses dans une grande surface. Alors je parle et même pas de la qualité des produits, évidemment, puisqu'un fromage qui sort directement de la ferme, un miel récolté depuis quelques heures, des fruits et légumes qui n'ont pas voyagé ni séjourné dans un frigo ou un poisson qui sort de l'eau, pas besoin de vous faire un dessert, c'est quand même meilleur.
Et puis on peut aussi vivre auprès des producteurs. Certains ouvrent leurs portes, rester plus longtemps avec eux.
Oui, là on pousse vraiment l'exercice du gastro-tourisme tout au bout. Les fermes auberges par exemple, qui vous accueillent et cuisinent les produits de leur exploitation. Les campings à la ferme qui permettent d'être, vous l'avez dit, au plus près de cette vie rurale ou les chambres d'hôtes. Alors quelques sites pour vous guider. Un lit au pré qui propose des hébergements, souvent solides d'ailleurs dans les exploitations agricoles. Bienvenue à la ferme, vous pouvez trouver des listes de produits achetés sur place, de la restauration ou des logements. Et puis évidemment, les routes des vins, que ce soit en Alsace, en Provence ou à Bordeaux, elles sont de mieux en mieux balisées et elles permettent de découvrir tous nos beaux terroirs.
Et puis Olivier, tout cet été, on en saura encore un petit peu plus sur cette cuisine estivale, puisqu'on vous retrouvera tous les week-ends sur Europe 1 pour faire avec vous le marché de midi dès samedi avec Stéphanie Lequellec, un produit, un producteur, vos trucs, vos astuces, des recettes, sans oublier bien sûr l'apéro de l'été avec un grand chef. Ce sera donc le samedi et le dimanche.
Exactement, entre 12h et 12h30, le marché de midi, voilà le gastro-tourisme à la radio. Et j'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir avec tous ces beaux produits. Et on va commencer samedi d'ailleurs, on parlera de bœuf. Tiens.
Ah. Merci beaucoup Olivier Pouls et merci de nous avoir régalé toute cette saison. Et c'est pas fini, bel été à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Je veux me marier avec le vent. Je prends le soleil comme mon amant. Avec les nuages, je danse le French cancan. Mais le vendredi, le tango samba. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé, elle n'existe plus. La vie, aujourd'hui, elle est plus importante. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Oh. Embrasse le passé.
La vérité, le premier extrait de l'album posthume d'Arnaud qui nous a quittés en avril dernier, album qui s'intitulera Rocailleux à l'image de la voix du chanteur belge qui a travaillé jusqu'à son dernier souffle sur ce disque dont la sortie est prévue pour la rentrée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant, la météo, le journal et une clarification.
Ah oui, depuis hier, on y voit plus clair. Hein, en tête de ce Tour de France, la très redoutée étape des pavés a consacré le coureur australien Simon Clark. Mais le grand gagnant, c'est bel et bien Tadej Pogacar, le double vainqueur en titre, a éclaboussé le nord de sa classe alors qu'il découvrait pour la première fois l'enfer d'Arenberg. Le Slovène a collé plus de 2 minutes au général à son compatriote et rival Primoz Roglic qui a chuté. Alors est-ce que cette édition 2022 est d'ores et déjà pliée ? Que peut-on attendre de l'étape du jour, hein, la plus longue de ce tour avec ses airs de classique ardennaise? Autant de questions que notre envoyé spécial Axel May est allé poser à l'ancien coureur et actuel manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur. Vous l'entendrez dans une dizaine de minutes. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Et c'est un mélange de funk, de jazz et de musique soul. Tête de proue du mouvement acid jazz dans les années 90, la partition des Anglais de The Brand New Heavies dans 20 minutes.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ?
Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
La météo avec Marlène Duré. Marlène, un temps un peu plus variable dans le nord.
Oui, aujourd'hui c'est vrai, Julien, un ciel temporairement nuageux sur le tiers nord avec quelques gouttes possibles près de la frontière belge avant de laisser place à un ciel variable en journée entre la Bretagne et la frontière allemande en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, une partie du Centre-Val de Loire, autrement dit de l'Eure et Loire-Auxerre. Il y a aussi l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Allier, le Grand Est, ciel variable, autrement dit belles éclaircies malgré des passages nuageux. Donc, faut attendre un petit peu l'après-midi pour que ça se dégage. Sur le reste du pays, toujours beaucoup de soleil. Sur l'extrême sud-ouest, des entrées maritimes qui vont se dissiper en cours de matinée. Du côté des Alpes du Sud, après une matinée ensoleillée, un risque d'orage, notamment sur le Mercantour, en Haute-Corse également, sur le relief. Et le Mistral et la Tramontane, avec cette chaleur toujours marquée dans le sud-est, qui favorise le risque d'incendie. Côté température, eh bien, ça ne change pas beaucoup par rapport à hier, avec 24 à 30 degrés en général, localement 21 à 23 près de la Manche et 30 à 35 sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Marlène Duré. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le jeudi 7 juillet. Il est 6h. Et à la une, EDF à nouveau entre les mains de l'État à 100%. Elisabeth Borne a annoncé hier la renationalisation du groupe en grande difficulté financière. À quoi doit servir cette opération ? Explication dans un instant. Pas d'obligation sur le port du masque. Face à la reprise de l'épidémie de Covid, le gouvernement mise sur la responsabilité individuelle alors que la 7e vague arrive aussi à l'hôpital. Et puis c'est jour J pour les vacances scolaires. Vous prendrez peut-être le volant dans les prochains jours. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, les nouvelles voitures sont équipées de boîtes noires comme dans les avions. Et ce pour améliorer la sécurité routière.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Renationalisation et nouveau patron, voilà ce qui attend EDF. C'était l'une des rares annonces du discours de politique générale d'Elisabeth Borne hier. L'État souhaite donc détenir 100% du capital de l'entreprise avec un objectif, Carole Ferry, reprendre la main sur l'électricien français.
Oui, alors l'État est déjà actionnaire à près de 85%, mais il faut racheter les parts des actionnaires minoritaires. Le coût devrait être d'environ 5 milliards d'euros, plus sans doute un petit bonus de rachat qui reste à définir. Alors pourquoi est-ce nécessaire ? Eh bien d'abord parce qu'aujourd'hui, EDF est très endetté à 60 milliards d'euros, creusé encore par le plafonnement des prix de l'électricité. Une situation qui ne rassure pas du tout les organismes prêteurs qui ont tendance à accorder des prêts à des taux très élevés. Cette montée au capital peut donc être un gage de confiance qui permettra d'obtenir des taux plus avantageux pour investir par exemple dans les futurs EPR promis par Emmanuel Macron. Par ailleurs, avoir totalement la main sur la gestion du groupe, eh bien, c'est éviter de devoir rendre des comptes aux actionnaires minoritaires qui peuvent par exemple réclamer des garanties sur la rentabilité des projets mis en œuvre. Cela permet finalement une indépendance totale. Reste à obtenir le feu vert de la Commission européenne qui pourrait réclamer que le capital de certaines entités du groupe soit de nouveau ouvert aux investisseurs privés.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1, la renationalisation d'EDF, un chapitre que l'État va écrire avec un nouveau PDG. Le processus de succession est lancé. Jean-Bernard Lévy, actuel patron du groupe, pourrait quitter son poste avant la fin de son mandat l'année prochaine.
Et on en saura davantage à partir de 8h13 sur Europe 1, car Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, sera l'invité de Sonia Mabrouk.
Bruno Le Maire qui sera aussi autour de la table du Conseil des ministres prévu en fin d'après-midi. Présentation du projet de loi pouvoir d'achat, un texte étudié à l'Assemblée nationale à la mi-juillet.
Et les discussions s'annoncent ardues. La première ministre a en effet aperçu hier lors de son discours de politique générale.
Et dans l'hémicycle, Elisabeth Borne chahutée a appelé les oppositions au compromis. Message reçu par le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, moins fermé à la discussion.
Si vous êtes disposé à construire assez de places de prison, nettement plus que les 2000 places supplémentaires de la dernière mandature, vous pouvez compter sur nous. Si vous êtes disposé à instaurer des peines minimales exemplaires pour enfin sanctionner les délinquants, vous pouvez compter sur nous. Si vous êtes disposé à plafonner strictement l'immigration en fonction de nos capacités d'assimilation, vous pouvez compter sur nous. Si vous êtes disposé à expulser les étrangers fichés pour radicalisation terroriste, vous pouvez compter sur nous.
Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale.
Une main tendue à Elisabeth Borne qui était aussi l'invitée du journal de TF1 hier soir.
Une interview, la première ministre a abordé l'autre urgence du gouvernement, l'épidémie de Covid. Pas d'obligation de porter le masque à ce stade. Il reste recommandé dans les lieux clos et bondés. Yasmina Katou, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Plus de 155 000 nouveaux cas en 24 heures. La faute au variant BA5. Il faut dire que depuis début juillet, les chiffres s'affolent, Yasmina.
Oui, le nombre de cas de Covid recensés a été multiplié par 10 en un mois à peine. Nous étions à 20 000 cas début juin et la barre des 200 000 a été franchie ce mois de juillet. Le taux d'incidence a lui aussi augmenté. Un peu plus de 1100 malades pour 100 000 habitants contre 900 fin juin. À Paris, on compte même 2000 contaminations pour 100 000 personnes. Et pour les prochaines semaines, la tendance est à la hausse, explique Philippe Amouyel, épidémiologiste.
Il y aurait potentiellement un pic fin juillet. Ce qu'il faut maintenant, c'est la mise en œuvre de mesures dont on sait qu'elles agissent sur la progression de l'épidémie, la vaccination des plus fragiles, le port du masque dans les endroits qui sont mal aérés permettent de réduire ce pic.
Réduire le pic pour éviter les contaminations des plus fragiles et donc une surcharge des hôpitaux.
Et justement, Yasmina, cette septième vague commence à se faire sentir à l'hôpital.
Oui, il y a en moyenne 100 nouvelles admissions chaque jour dans les services de soins critiques. C'est 30% de plus que la semaine dernière. Au total, près de 17 500 patients sont hospitalisés avec une infection Covid. Alors pour l'instant, la situation semble contenue grâce à des taux de vaccination élevés. 83% des plus de 60 ans ont reçu au moins une dose de rappel. Aujourd'hui, dans les services de réanimation, la quasi-totalité des malades sont très âgés ou sont fragiles, d'où l'intérêt pour eux de se faire vacciner. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, hier, 130 000 personnes de plus de 60 ans ont reçu un second rappel.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, la septième vague de l'épidémie de Covid qui pourrait bien perturber votre programme pour ces vacances d'été. Elle démarre officiellement ce soir pour les 12 millions d'élèves.
Et vous vous apprêtez peut-être à prendre la route. Prudence en tout cas au volant. D'ailleurs, pour améliorer la sécurité des conducteurs, les nouveaux véhicules seront désormais équipés de boîtes noires, comme dans les avions. Une obligation à compter d'aujourd'hui. Alors, ces enregistreurs doivent permettre de comprendre notamment les circonstances d'un accident. Aurélien Fleureau, quelles informations exactement vont être archivées ?
Alors, l'objectif principal sera de pouvoir enregistrer ce qu'il s'est passé 30 secondes avant un accident et 10 secondes après. Cela va permettre de connaître la vitesse du véhicule, savoir s'il a freiné, accéléré, si vous portiez votre ceinture de sécurité ou encore si vous aviez utilisé votre clignotant. Le boîtier enregistre en continu, mais s'il n'y a pas d'accident, les données s'effacent au fur et à mesure. Elles sont anonymisées et ne captent ni image ni son à l'intérieur du véhicule. Seules les autorités y auront accès, pas votre assurance par exemple.
Aurélien, ça c'est pour le principe, mais quel est l'objectif de ces boîtes noires ?
En priorité, améliorer la sécurité routière. Aux États-Unis, où ce dispositif existe depuis 2015, les accidents de la route ont baissé de 20%. Et puis, l'autre bonne nouvelle potentielle pour les automobilistes, c'est que malgré un léger surcoût à l'achat d'une voiture neuve, eh bien, cela pourrait faire baisser le montant des assurances auto, comme le confirme Christophe Dandois, président de Léocare.
Comme les données sont anonymisées, on ne pourra pas impacter individuellement, mais collectivement, et pouvoir rediscuter au fur et à mesure du constat de baisse, et donc d'impacter directement sur la prime d'assurance de nos clients.
Le déploiement se fera en deux étapes. Donc dès aujourd'hui, tout nouveau modèle homologué lancé par un constructeur en Europe en sera équipé. Et puis à partir de mai 2024, toutes les voitures neuves commercialisées devront aussi avoir une boîte noire.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Du volleyball et un projet fou.
Oui, l'équipe nationale chinoise souhaite intégrer le championnat de France, vous allez comprendre. En fait, les Chinois veulent préparer les JO de Paris de 2024. Imaginez donc les affiches, Chaumont Chine ou Tour Chine, pourquoi pas. Et d'ailleurs, Cyril de la Morinerie, on pourrait assister à ces matchs très bientôt, dès le début de la prochaine saison.
Oui, depuis 3 mois et demi, le volley français travaille dans le plus grand secret pour mener à bien ce projet iconoclaste. Séduite par les résultats de l'équipe de France, devenue championne olympique à Tokyo, la Chine, 17e nation mondiale, souhaite jouer en Liga pour préparer effectivement les JO de Paris. Alors bien sûr, la Chine ne pourra pas être championne de France, mais pour le reste, l'objectif est qu'elle se frotte aux meilleures équipes françaises. Match qui serait retransmis en Chine, un pays qui se passionne plus pour le volley que pour le foot, s'enthousiasme le président de la Ligue française, Yves Bouget.
Si jamais ça s'effectuait, les matchs de l'équipe de Chine dans notre championnat seraient retransmis en direct, donc... La caisse de résonance est colossale pour notre volet, mais c'est surtout une vraie reconnaissance et ça devrait nous donner la capacité de développer et structurer notre volet.
La Ligue nationale française espère décrocher un contrat de 2 ans avec la Chine et obtenir près d'1,5 million d'euros par saison. Mais il faut maintenant attendre le feu vert du ministère des Sports. Une décision pourrait être prise d'ici 15 jours.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Tiens, Julien Omblin, lors du petit quiz du 6h, vous êtes habitué. Est-ce que vous vous reconnaissez l'artiste qui se cache derrière ce titre ?
Il vient de le dire.
Il y a un piège,
non,
hein.
Alors, c'est pas Michael Jackson,
mais ça y ressemble fortement.
Voilà, c'est ça. On aurait envie de dire le grand Michael. Eh bien, c'est pas si simple. Parce que Breaking News, que vous entendez, qui est sorti en 2010, vient d'être retiré des plateformes de streaming à cause d'une polémique, justement, sur la véritable identité de l'interprète. Sony l'a annoncé cette nuit. Certains fans soutiennent en fait que ce n'est pas Michael, mais un chanteur américain, le Jason Malachi, pour le citer. Alors Sony dément, mais dans le doute, préfère supprimer le titre pour ne pas offenser le King.
Alors, on ne sait pas si c'est Michael.
Voilà,
alors.
C'est ça. Ah. Les fans disent que ce n'est pas lui. D'accord. Sony dit que dément, mais a quand même retiré. C'est vrai que...
Jason Malachi, donc.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Le fameux.
Kiki et Malachi. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
6h09, on passe au sport avec vous, Dimitri Vernet. On commence par le Tour de France. Dimitri, cette cinquième étape hier qui nous a réservé de belles surprises.
Eh oui, puisqu'à la surprise générale, c'est l'Australien Simon Clark de la jeune équipe Israël Premier Tech qui a remporté cette étape difficile des pavés. Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour, est désormais dans l'équipe israélienne, savoure la victoire de son équipe.
Pour nous, aujourd'hui, c'est un rêve. Pour l'équipe, une équipe jeune comme nous, c'est la première victoire d'une étape dans le Tour de France. Donc oui, c'était une journée très importante pour Simon Clark et pour Israël Premier Tech quand même.
Christopher Froome au micro européen de Martin Lange. De son côté, le maillot jaune Wout van Aert a chuté lors des fameux pavés, ce qui a permis au grand favori Tadej Pogacar, en grande forme hier, de revenir à 19 secondes du Belge au classement général. Sixième étape donc cet après-midi, et pas des moindres, puisque c'est la plus longue de ce tour, près de 220 km reliant Binche en Belgique à Longwy. Et on continue de parler du Tour de France dans une minute.
Tennis maintenant, et Raphaël Nadal qui s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de Wimbledon.
Eh oui, victoire en 5-7 au super tie-break face à l'américain Taylor Fritz. Victoire au forcing puisque l'Espagnol était en grande souffrance au bord de l'abandon, causé non pas par sa cheville gauche mais par des douleurs aux abdominaux, ce qui remet fortement en question sa participation en demi-finale.
Je ne sais pas exactement ce que j'ai. Demain, je passerai des examens. Difficile de savoir. Il y a un truc qui cloche au niveau des abdominaux et aujourd'hui, c'était ma pire journée. J'ai réussi à gagner et on verra où on en sera demain. Je suis préoccupé, évidemment.
Rendez-vous vendredi pour les demi-finales où Raphaël Nadal, s'il le peut, affrontera l'Australien Nick Kyrgios et Novak Djokovic, de son côté, devra batailler face au nouveau chouchou du public anglais, Cameron Norrie. Et puis enfin, en bref, l'Euro de football féminin qui a débuté hier avec la victoire devant leur public des Anglaises 1-0 face aux Autrichiennes. Ce soir, suite de la compétition avec l'entrée d'un des favoris, la Norvège, qui affronte l'Irlande du Nord.
C'était le journal des sports signé Dimitri Vernet. Merci beaucoup Dimitri et comme promis, nous rejoignons à nouveau les routes du Tour de France au lendemain d'une cinquième étape qui a donc tenu toutes ses promesses. On vient d'en parler à l'issue de cette étape. Et bien notre envoyé spécial Axel May a rencontré l'ancien coureur Cédric Vasseur. Le manager de l'équipe Cofidis a accepté de se confier après quasiment une semaine de compétition. Messieurs, on vous écoute.
Cédric Vasseur, bonjour.
Bonjour.
Équipe Cofidis, ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de cette équipe sur le Tour de France et on voulait vous avoir sur Europe 1 parce que là on vient de terminer, au moment où on enregistre l'interview, l'étape des pavés, c'est le nord de la France, ce sont les terres de l'équipe Cofidis. Ce jeudi, il y a une nouvelle étape dans le nord, même ça part de la Belgique. On est sur les terres, sur vos terres là.
Oui, on est sur nos terres depuis notre retour du Danemark. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une journée de repos à Lille, l'étape Dunkerque-Calais, l'étape des pavés qui franchement a vraiment marqué les esprits à une étape très difficile. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est plutôt content du passage dans la région parce qu'Anthony Pérez a été un des grands animateurs de l'étape de Calais. Il a été le plus combatif du jour. Et puis, sur l'étape des pavés, notre crainte, c'était de voir Guillaume Martin perdre beaucoup de temps pour le classement général. Alors, il ne perd qu'une minute 09 sur l'échappée. Ça veut dire que l'étape des pavés nous a pas été fatale, en tout cas, avec un Max Walshed qui vient chercher une bonne 12e place malgré une chute en début d'étape. Globalement, pour nous, le bilan est plutôt positif.
Ouais, parce que cette étape qui arrivait donc sur la trouée d'Arambert, là où on est en train d'enregistrer cette interview, cette étape des pavés, autant les premiers jours, on était impressionnés par les Jumbo Visma, les Van Aert, les Roglic, les Vingegaard. Là, il y en a un qui a quand même tiré les marrons du feu, c'est c'est Pogacar, le double vainqueur du sortant, même s'il prend moins de temps que ce qu'il pouvait espérer sur les Jumbo et les autres favoris, c'est quand même lui qui roule devant et qui dit un petit peu au revoir à tout le monde quand il veut.
Oui, c'est clairement le grand favori. Il a pris un ascendant psychologique important sur les pavés, il a assommé ses adversaires. Aussi au niveau de la mécanique, je crois que c'est un ensemble et on a vu beaucoup de soucis chez Jumbo-Visma. On sent aussi peut-être un petit peu une équipe plus dispersée, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop s'ils doivent jouer la carte Van Aert, la carte Roglic, la carte Vingegaard. Et quand on joue sur trois fronts, eh bien, on diminue par trois notre force de frappe. Du côté du AE, c'est clair, il n'y a qu'un coureur, c'est Pogacar. Et il est suffisamment fort maintenant, je pense, pour assumer ce rôle de leader.
Quand on regarde Cédric Vasseur, le début de ce tour, dès la première étape, il est troisième du contre-la-montre, sous la pluie, Pogacar, ça veut dire qu'il a pas peur, il est en confiance. Sur les pavés, il est devant tous les autres, derrière l'échappée, mais devant tous les autres favoris. Bah, il s'est gagné un peu partout et être dangereux partout. Alors c'est toujours les comparaisons sont compliquées, le compare à Eddy Merckx, mais c'est vrai qu'il a une capacité à s'adapter à tous les terrains.
C'est le numéro un du moment. On a eu des airs Eddy Merckx, Bernard Hinault, Greg LeMond, etc. Je pense qu'effectivement, Tadej Pogacar, de par sa simplicité aussi, hein, il impose pas non plus trop, mais il a cette intelligence de course et puis surtout, il est capable de faire le bon effort au bon moment. On ne peut pas le surprendre et je crois que cette étape des pavés lui donne un bon ascendant, je l'ai déjà dit, psychologique. L'équipe va être en confiance, elle sait que son leader est à la hauteur. Maintenant, on va aussi arriver sur un terrain qui est plus son terrain de prédilection, c'est le terrain vallonné, la montagne en fin de semaine. On va voir sur la première ascension de la planche des Belles Filles, parce que ça sera la première explication en montagne. Mais il est fort à parier qu'on assiste au même scénario. Vous le disiez, hein, le contre-la-montre de Copenhague a déjà donné un petit peu le ton de ce Tour de France. L'étape des pavés confirme ce ton. Le grandissime favori, c'est Pogacar.
Votre équipe, on vous le rappelle régulièrement, 2008, la dernière victoire de Cofidis sur le Tour de France. Cette année-là, il y en avait eu deux, Dumoulin et Chavanel. Ça vous pèse un petit peu, ça? C'est une pression
Ces deux victoires cette année-là, elles nous ont coûté cher parce qu'il faut attendre longtemps pour en retrouver une. Mais non moi, à titre personnel, j'ai mis 10 ans avant de regagner sur le Tour de France. Donc, je pense que la victoire d'étape est relativement possible cette année. On a une équipe qui s'est bien renforcée. Le classement UCI nous le prouve. On est 10e équipe mondiale sur l'ensemble de la saison 2022. On a gagné 11 courses avec 7 coureurs différents. Des coureurs comme Yann Izaguirre se sont déjà imposés sur le Tour. Simon Gauthier. On lance de nouveau dans le grand bain avec Benjamin Thomas, avec Victor Laffey. Et évidemment, Guillaume Martin. On sait que Guillaume Martin peut aller faire un exploit. Donc, l'équipe, on a travaillé sur une équipe qui pouvait renouer avec la victoire. Maintenant, je pense que le travail reste à faire. Mais on voit vraiment que sur le Tour de France aussi, les étapes sont chères. Il n'y a pas d'étape cadeau. Et en tout cas, nous, on va se battre pour renouer avec cette victoire. On l'attend depuis tellement longtemps que ça nous ferait plaisir.
Guillaume Martin, il n'a pas gagné sur un grand tour, mais un peu comme un Romain Bardet, comme un Thibaut Pinot ou même comme un Julien Lafilippe, le grand public le connaît parce que, alors au début il était un peu résumé, c'est le coureur philosophe, il écrit des livres, ça lui déplaisait un peu, enfin il a quand même écrit un deuxième livre, mais voilà, il finit régulièrement dans le top 10, meilleur français.
Oui, Guillaume Martin, c'est un coureur endurant, c'est la résistance, c'est le professionnalisme à l'extrême, nous on l'admire énormément. On s'est mis vraiment une pression sur le Giro. Pour jouer le général. Ici, on est arrivé détendu.
Parce qu'il enchaîne, hein. il a fait Tour d'Italie, voilà. Il fait Tour de France.
C'est une première. Et puis surtout, ces dernières années, il a enchaîné Tour de France, Vuelta, Tour de France, Vuelta, Giro, Tour. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais volontairement, on savait que le vent au Danemark, il n'y en a pas beaucoup eu de vent, les pavés pouvaient vraiment nous faire mal et nous faire perdre 10 minutes. Aujourd'hui, le débours n'est pas à 10 minutes. On a peut-être 1 minute 30 de Pogacar. Ça veut dire quasiment rien. Et ça nous laisse vraiment entrevoir une nouvelle possibilité de rentrer dans les top 10 du Tour de France. Mais au-delà de ce classement général qu'il a déjà fait à deux reprises, hein, il est terminé 8e, 9e du Tour, meilleur français. Il le sait aussi, Guillaume, l'objectif maintenant, c'est d'aller gagner une étape. Et je pense que cette victoire d'étape va augmenter encore ses capacités de bien faire au général. Parce que c'est un coureur qui marche aussi au mental. Et il a veut tellement cette victoire que on aimerait lui offrir. Donc il y a pas mal d'étapes qui pourraient lui convenir.
Dernière question, Cédric Vasseur. Quand on est manager d'une équipe, il faut avoir le cœur, le palpitant qui résiste parce qu'on souffre avec les coureurs. Il y a du stress. Il y a en plus toute la gestion administrative qui s'ajoute à ça.
Oui, il faut avoir le cœur bien attaché. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas que sur le Tour de France. Tout au long de la saison, c'est un petit peu de la même façon. On a une équipe féminine à gérer, une équipe handisport. Beaucoup d'objectifs, mais je veux dire, la passion du cyclisme, la passion du Tour de France, ça nous permet vraiment de faire face à cette pression. Et puis le groupe est vraiment un groupe facile. On a un esprit de camaraderie, ça rigole avec Anthony Pérez, on se marre vraiment bien dans ce groupe. Et ça me permet de gérer ce stress, cette pression. Et puis ça fait déjà la cinquième année maintenant, donc j'ai un petit peu plus de recul que sur mon premier Tour de France.
Vous avez un secret, vous faites du yoga ou autre chose?
Je dois me remettre au vélo, mais le problème c'est le temps qui manque. Non, je pense que j'essaie tout simplement de prendre du recul. Et puis l'expérience montre que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira bien demain. Donc on sait très bien qu'après la pluie, il y a le beau temps, il ne faut pas stresser. Donc ça ira.
Thierry Gasser, le manager de la formation cycliste Cofidis. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à Axel May pour cette interview enregistrée hier soir à l'issue de la cinquième étape. La sixième, celle du jour, sera la plus longue de cette édition 2022. Près de 220 km entre Binche en Belgique et Longwy en Meurthe-et-Moselle. On en parle à 7h20 dans le journal du Tour de Martin Lange.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h19 sur Europe 1, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Un compromis, voilà ce qu'a proposé Elisabeth Borne aux parlementaires hier lors de son discours de politique générale. La première ministre a détaillé la feuille de route du gouvernement en confirmant que la réforme des retraites était toujours sur la table. Le premier chantier, la lutte contre l'inflation. C'est dans ce contexte que le projet de loi pouvoir d'achat sera présenté dès aujourd'hui en Conseil des ministres. Des mesures concrètes, rapides et efficaces selon Elisabeth Borne, comme la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, l'augmentation de 3,5% des fonctionnaires ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Et puis on se rappelle tous de ces images impressionnantes. Elles avaient fait le tour du monde de l'effondrement du pont de Gênes en Italie il y a 4 ans qui avait fait 43 morts. Début aujourd'hui du méga procès de la catastrophe, 59 personnes seront jugées.
On conclut cette matinale avec votre partition Omblin et avec les grandes vacances qui commencent officiellement aujourd'hui. Une partition estivale ce matin. Vous vous présentez à ceux qui ne connaissent pas encore le groupe The Brand New Heavies.
Oui, des Anglais, Julien, qui n'ont aucun secret pour les mordus d'acide jazz. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ce formidable courant musical né outre-Manche, coincé entre la New Wave des années 80 et la Britpop des années 90.
Et comme à chaque fois qu'il a été question d'acid jazz ici sur cette antenne, impossible de ne pas évoquer son créateur, Gilles Peterson.
Oui, immense figure de la musique britannique, un DJ normand né à Caen d'un père suisse qui a grandi à Londres. Quand l'Angleterre se remet de la déferlante punk en 1980, Gilles Peterson dévore les disques d'Herbie Hancock, de James Brown et Stevie Wonder. Après avoir officié pendant 25 ans sur l'honorable BBC, il part avec une idée assez simple, créer un style de musique sur mesure avec des morceaux qui puissent être joués en toutes circonstances par un DJ. Et il va encore plus loin, ces musiques qui font se balancer les foules dans les nightclubs doivent connaître également le succès en plein jour.
Nous sommes à la fin des années 80 et voilà que les discothèques londoniennes ressemblent à un épisode de Starsky.
Oui, le funk renaît sous une nouvelle forme. Le génie de Gilles Peterson est finalement de traduire en britannique les musiques noires américaines. Le funk, c'est l'ingrédient de base de l'acid jazz saupoudré de jazz avec ses cuivres et de soul avec ses synthés. Gilles Peterson fonde son premier label avec son complice de l'époque, Eddie Piller, et ils ne vont pas chercher bien loin pour lui trouver un petit nom.
Oui, ils le baptisent comme le genre musical qui vient d'être façonné, Acid Jazz Records.
Voilà, comme les premiers artistes, parmi les premiers artistes qu'ils signent et qui resteront à jamais leur tête de gondole, le groupe The Brand New Heavies, bien sûr.
Quand il se lance, The Brand New Heavies fait d'abord dans la musique instrumentale.
Jusqu'à ce que les musiciens décident de recruter des chanteuses. Les deux têtes pensantes sont le guitariste Simon Bartholomew et le bassiste Andrew Levy. Leur premier album, en 1989, ouvre une brèche dans laquelle s'apprête à s'engouffrer un groupe qu'on ne présente plus. Jamiroquai est bientôt leader du mouvement acid jazz. Il va offrir au genre une résonance internationale. Alors si le socle de The Brand New Heavies est inébranlable, les chanteuses, elles, vont et viennent, ouvrent et referment des chapitres dans l'histoire du groupe. On a pu entendre un petit peu plus tôt la voix de l'américaine Andy Davenport. En 1997, C'est Syda Garrett qui est recrutée, vous la connaissez sans doute puisque c'est elle qui chante avec Michael Jackson sur I Just Can't Stop Loving You. Elle a longtemps été la choriste de Madonna. The Brand New Ivies, une machine à danser toujours en activité, le dernier album est paru en 2019. Du disque Shelter paru en 1997, The Brand New Ivies avec la voix donc de Syda Garrett, You Are the Universe, chaudement recommandé sur la route des vacances.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko sera avec nous. À tout de suite.
Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Aujourd'hui, venez découvrir le récit de trois couples qui se sont redit oui.
Nathalie Wood et Robert Wagner, l'un des couples mythiques du cinéma américain qui s'est marié puis a divorcé avant de se remarier jusqu'à ce que la mort vienne les séparer. D'une bien étrange manière. Puis le couple que formait la singulière écrivaine américaine Carson McCullers avec un homme qu'elle a épousé plutôt deux fois qu'une.
Et un écrivain plus vivant qui a épousé trois fois, sa femme Azeb, Jean-Christophe Ruffin.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
A tout à l'heure des 16h sur Europe 1.
Ah, New York en août. Aller à Central Park, nourrir les écureuils et se faire mordre. Aller à la pharmacie, acheter un pansement $15 et être heureux de ne pas l'avoir payé 50.
Les voyages réservent parfois de mauvaises surprises. Avec LCL, effectuez vos paiements à l'étranger sans frais supplémentaires pour seulement 2€ par mois avec City Explorer 18-29 ans, accessible sur l'appli LCL. LCL, ma vie, ma banque. LCL, élu service client de l'année 2022. Catégorie banque. Plus d'infos sur escda.fr, voir conditions en agence ou sur lcl.fr.
Renault, longue vie aux voitures à vivre.
Parfois on me dit, oh Josie, vous a connu plus quoi, plus jeune, plus fringant, moins cabossé. Bah oui, pardon, mais les tournées, tous ces kilomètres, ça laisse des traces. Après, peut-être que je devrais lisser un peu tout ça pour retrouver mon éclat, mon lustre originel.
Retrouvez la voiture que vous aimez chez Renault Care Service. Découvrez nos forfaits carrosserie à partir de 99€. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr.
Europe Matin. Il est 6h27, excellente matinée avec Europe 1 dans le poste.
Et oui, et à demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Dans le poste.
On disait ça en 1992. Oui.
Ouais, c'est ça. Du temps des postes à galette.
Dans le transistor.
Voilà, bonjour Julien, bonjour Omblin. Ah bah voilà. Ça y est, elle a passé l'épreuve initiatique de tout Premier ministre. Que retenir de la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne? Alors un style d'abord, une certaine autorité quand même, ce sera indispensable pour convaincre alors qu'elle ne pourra rien imposer. D'où la méthode, la recherche des compromis. Alors pas avec tout le monde apparemment. Exit le Rassemblement National et la France Insoumise. Une feuille de route ensuite, enfin plutôt un cap en mode catalogue avec beaucoup de slogans. Bon, en gros, le plein emploi, la sortie des énergies fossiles, une république de l'égalité des chances, les retraites aussi. Mais il n'y a plus de borne d'âge, en tout cas dans le discours. Il faudra travailler progressivement un petit peu plus longtemps. On cherche un peu l'audace quand même dans ce discours de politique générale. En revanche, peut-être si EDF, l'État a l'intention de détenir 100% du capital de l'électricien, c'est un peu la surprise du chef. EDF qui va changer de dirigeant, alors qui pour piloter l'énergéticien? Voilà, tous les dossiers chauds en fait sont à Bercy en ce moment. Et ben, ça tombe bien puisque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera avec nous tout à l'heure à 8h13. C'est lui également qui portera le projet de loi pouvoir d'achat qui sera présenté ce matin en Conseil des ministres. Donc ne manquez pas l'invité politique de Sonia Mabrouk. Et puis c'est la DER de Mathieu Noël aussi ce matin. À 7h40, on vous réserve quelques petites surprises. Voilà pour les grandes lignes du programme.
À demain.
On se retrouve demain matin.
Oui.
Allez vous reposer, surtout vous, Julien. Je vous avais vu un peu rouge là ce matin. Allez dormir. Allez, le temps. Bonjour Marlène Duret.
Bonjour Dimitri.
C'est toujours très ensoleillé au sud. En revanche, les nuages reviennent au nord.
Oui, c'est la petite nouveauté. Enfin, c'est temporaire aussi. Hein. C'est lié à une perturbation qui passe sur l'Allemagne. Nous sommes en bout de course. La masse d'air étant un peu plus humide, eh bien, des nuages se forment et vont circuler sur le tiers nord du pays, de la Bretagne et des régions bordant la Manche jusqu'au nord de l'Alsace et aux frontières belges et luxembourgeoises. Donc, un petit peu moins nombreux, a priori, pour l'Île-de-France. Et puis, petit à petit, ces nuages vont glisser vers la Sologne, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux portes de l'Auvergne-Rhône-Alpes, tout en se désagrégeant parce que l'air sera plus sec. Et donc, toutes les régions que j'ai citées ou les départements, et bien dans ces régions, le ciel va s'éclaircir cet après-midi. Même chose au niveau du Pays Basque et puis sur le reste du pays, donc du beau temps, évolution orageuse dans les Alpes du Sud et en Haute-Corse, toujours des vents dans le Sud-Est et les températures quasiment les mêmes valeurs qu'hier au plus chaud de la journée. 20 degrés sur la pointe du Cotentin à Cherbourg contre 35 à Montpellier, il fera 26 à Paris.
Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve juste avant 7h. Excellente journée, bienvenue sur Europe 1, 6h30.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko vous informe sur Europe 1.
Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins.
Voilà, ambiance. Hier après-midi à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne chahutée par les élus de la NUPES et du RN lors de sa déclaration de politique générale. La Première ministre veut pourtant bâtir des compromis. Crash test à venir. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Autre annonce hier, la renationalisation à venir d'EDF. Un nouveau patron également pour l'électricien dans les prochains mois. Et Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG, est sur le départ. Et puis c'est reparti pour le festival d'Avignon, sans masque, sans contrôle sanitaire cette année. 15 500 spectacles à découvrir, et ce jusqu'au 30 juillet. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des cris à gauche, des visages désapprobateurs à l'extrême droite, mais Elisabeth Borne est restée presque imperturbable face à l'Assemblée nationale hier pour présenter son discours de politique générale. Son mot d'ordre, le compromis. La Première ministre s'est dite prête à entendre les propositions de chacun, main tendue notamment aux Républicains et à une partie de la gauche, mais pas au RN et à LFI, les deux extrêmes considérés comme des ennemis par Gérald Darmanin et qu'Elisabeth Borne n'envisage pas comme des alliés potentiels. Elle l'a rappelé hier soir sur TF1.
La tonalité cet après-midi a montré que certains groupes pouvaient être dans la discussion et que d'autres étaient plutôt dans les attaques personnelles, dans l'invective. Donc on voit bien qu'en effet, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, manifestement, ils ne sont pas en train de chercher des compromis avec nous. Et vous voyez ce qui me semble important aussi, moi je le redis, hein, moi je suis au travail et mon objectif, c'est d'agir pour les Français. Ces débats, ils auront lieu à l'Assemblée nationale et je pense que chacun verra qui est prêt à trouver des compromis, à faire avancer les projets de loi et qui n'est pas prêt.
Elisabeth Borne, hier soir au journal de TF1, la Première ministre, qui a par ailleurs annoncé la volonté du gouvernement de prendre 100% du capital d'EDF, 17 ans après l'ouverture de son capital. Le PDG de l'entreprise sur le départ, Jean-Bernard Lévy, sera remplacé dans les prochains mois.
Et on en parlera évidemment à 8h13 ce matin avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité d'Europe Matin. Bruno Le Maire qui participera cet après-midi à 16h. Au deuxième Conseil des ministres de la semaine, au programme, le projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Oui, bouclier tarifaire, chèque alimentation, encadrement de la hausse des loyers, aide aux salariés qui prennent leur voiture pour aller travailler. Des mesures qui seront débattues par les parlementaires d'ici deux semaines. Et ce ne sera pas une promenade de santé pour l'exécutif, Jacques Serret.
Oui, Elisabeth Borne le répète à l'envi, elle veut travailler à des compromis avec les forces d'opposition, mais la tâche s'annonce particulièrement ardue, voire impossible sur la question du projet de loi pouvoir d'achat, car chaque petit pas, chaque mesure éventuellement accordée à un camp vaudra la réprobation de l'autre. Exemple avec l'augmentation du SMIC à 1500 euros net réclamée par l'Alliance de gauche, même si ce n'est pas d'actualité. L'exécutif sait d'avance qu'imaginer une telle concession à la NUPES lui ferait perdre immédiatement les voix des Républicains. Et vice-versa sur d'autres mesures, ou comment l'examen du projet de loi pouvoir d'achat révélera au grand jour le blocage profond auquel est confrontée la représentation nationale. Une situation intenable aux yeux d'un certain nombre de députés. D'ailleurs, aussi bien dans les rangs de la majorité que du côté de l'Alliance de gauche, des voix commencent déjà à s'élever en faveur d'une dissolution de l'Assemblée, chacun espérant à moyen terme renverser la table à son profit. C'est dire si l'examen de ce projet de loi, qui débutera dans 2 semaines, le 18 juillet, s'annonce pour le moins prometteur.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
6h34, 39 interpellations en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Tout un réseau de passeurs de migrants démantelés.
Et l'enquête avait démarré l'an dernier en France après l'arrestation de passeurs qui faisaient traverser la Manche à des migrants sur des bateaux pneumatiques élargis au niveau européen. Elle a été détaillée hier à La Haye, au siège d'Eurojust. C'est l'organisation de coopération judiciaire européenne. C'est la première fois qu'une telle enquête permet de mettre hors jeu un réseau tout entier, des petites mains aux donneurs d'ordre, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, et le réseau était d'une telle importance qu'on estime qu'il a permis le passage clandestin vers l'Angleterre sur des petits bateaux d'au moins 10 000 migrants sur les 18 derniers mois. Trafic à l'échelle quasi industrielle, organisation tentaculaire depuis l'Allemagne jusque sur le littoral des Hauts-de-France, selon la procureure de Lille, Carole Etienne, à la tête de la juridiction qui a piloté l'enquête.
Cette organisation supervisait l'acheminement des migrants de toute nationalité sur les plages par des chauffeurs, l'acheminement des bateaux depuis l'Allemagne et les Pays-Bas, le recours à des complices implantés localement, qu'il s'agisse de propriétaires d'immeubles et d'appartements, de garagistes, de négociants automobiles. Et cette organisation supervisait également les traversées maritimes proprement dites.
Et un trafic juteux qui, pour des tarifs variant de 2 000 à 3 500 euros la traversée, aurait généré un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec des moyens colossaux. 150 bateaux, 50 moteurs, 1 200 gilets de sauvetage stockés en Allemagne ont été saisis au cours des perquisitions. La tête de réseau, un kurde irakien de 26 ans, a été interpellé, lui, au Royaume-Uni. Les investigations se poursuivent, mais il ne semble pas que cette organisation soit impliquée dans le naufrage de l'embarcation qui avait fait 27 morts dans la Manche en novembre dernier.
Lionel Gouge, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Nous partons maintenant aux États-Unis. C'est aujourd'hui que le Mississippi interdit l'avortement.
Et ce ne sera pas le dernier État américain à franchir cette ligne. Demain, un juge de Louisiane devra se prononcer sur la question. S'il l'autorise, la nouvelle loi y sera l'une des plus restrictives du pays. L'IVG est totalement interdit, même en cas de viol et d'inceste. 3 cliniques devraient alors fermer. Alexis Guilleux a rencontré l'ancienne directrice de l'établissement de la Nouvelle-Orléans. C'est la plus grande ville de Louisiane. Reportage.
Ce jour-là, aucun avortement n'est programmé, la clinique est fermée, mais les barreaux aux fenêtres reflètent la violence qui se déroule quasi quotidiennement dans ce quartier populaire de la Nouvelle-Orléans. Amy Irving représente une équipe traumatisée par la décision de la Cour suprême.
Quand l'annonce est tombée, il y a eu beaucoup de larmes. Personnellement, j'ai pleuré, je me suis soudainement sentie vulnérable, comme cela ne m'était jamais arrivé. J'avais l'impression que l'on me dévisageait parce que j'étais une femme.
Seules 3 cliniques proposent encore des IVG en Louisiane. 7000 personnes ont pu y avorter l'an dernier. Si la nouvelle loi entre en vigueur, l'État sera l'un des plus isolés du pays. Il faudra voyager des centaines de kilomètres pour pouvoir avorter.
J'ai l'impression que beaucoup de personnes qui étaient à l'écart sur cette question de l'avortement se sont soudainement réveillées. J'ai parlé à des amis qui sont très inquiets pour leurs filles et qui envisagent de quitter la Louisiane.
Une partie du personnel va d'ailleurs déménager dans un État plus progressiste. Amy Irving s'attend, elle, à un long combat, car la victoire des anti-avortements s'est construite pendant plusieurs décennies. Il va nous falloir presque autant de temps pour récupérer ces droits, dit-elle en lançant un appel aux dons. Objectif, renforcer le filet de sécurité pour les familles de Louisiane, le 2e État le plus pauvre des États-Unis. La Nouvelle-Orléans, Alexis Guilleux, Europe 1.
Voilà, cette affaire de l'avortement, cette épidémie de tuerie par arme à feu également, met Joe Biden en difficulté dans son propre camp, le camp démocrate. On en parlera avec Alexis Guilleux tout à l'heure dans la revue de presse internationale à 7h05. Retour en France.